Cette semaine, GoPro lance la Zeus Mini, Samyang met des objectifs à jour et on s'entretient avec François Mellet, représentant chez Panasonic. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 164. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Christian Jarry.
Et rebonjour Stéphane.
Salut, et de Pierre-Luc Groslot.
Oui, salut Stéphane, salut. Avec Christian.
Salut. Et... Ça faisait longtemps.
Oui, hein? Oui,
c'est ça.
Un petit délai.
Un peu de lag à partir...
Non, c'est le lag du mute button, mon bouton fermer ma trappe finalement, que j'ai pas pesé assez rapidement.
Ah d'accord, ben non, y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent avec... les épisodes à distance.
Exact.
Bon, comme à l'habitude, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis le dernier épisode. Christian, depuis quelques semaines, tu as eu un peu plus de chance.
Pas tant, un petit peu. Par contre, j'ai fait quelque chose que ça fait très longtemps. J'avais une petite commission à aller faire dans l'ouest de l'île. Puis, étant seul dans l'automobile, je savais le chemin que j'avais à prendre. Puis, il y avait une place que ça faisait des années que je désirais prendre en photo, qui est une vieille maison dans l'ouest de l'île à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est complètement délabrée.
Ah oui.
Puis là, je me suis dit, j'ai pas d'enfants, j'ai pas personne, j'ai le temps. Je vais prendre mon appareil photo, puis je vais aller voir. Mais évidemment, bon, c'est un endroit où il n'y a pas de stationnement, pas rien, puis tu n'as pas le droit techniquement d'être sur le terrain. Alors, je n'ai pas resté là trop longtemps. Surtout que j'ai cru remarquer qu'il y avait l'air plus loin d'avoir des caméras, puis tout ça. Fait que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi tu mettrais des caméras pour ça, mais bon, bref, c'est pas plus important qu'il faut. Tout ça pour dire que j'ai finalement quand même pu prendre deux photos, que je suis assez content quand même du résultat. J'avoue que j'ai joué un petit peu avec les couleurs, le look un peu plus vieillot dessus. Ça a l'air d'une maison presque d'un film d'horreur.
Ouais, t'as mis ça plus trash un peu, je vois ça là.
Puis l'autre, je suis allé plus typique noir et blanc, mais tu sais, je sais pas, je trouve qu'elle ressort très très bien là, en noir et blanc avec le niveau de détail, tout ça. Ça a été très simple. Puis j'ai pris objectif très simple, le 18-55 qui vient avec mon appareil photo. Et il est tellement bon de toute façon que ça faisait en masse le travail pour ce que je voulais faire. Là.
Tant mieux. Et c'est sans surprise celle en noir et blanc qui est venue me chercher tout de suite.
Tu m'étonnes tellement.
Mais moi, j'ai une question, Christian, parce que j'ai accès à la photo, là, puis clairement, ça fait un certain temps que personne n'habite là.
Ça fait 12 ans que je vis ici, puis ça a toujours été à peu près dans cet état-là.
Ah oui,
hein? Un petit peu mieux avant, là, disons, là, mais là, je pense qu'elle empire avec le temps, là, mais ça fait très, très longtemps qu'elle est comme ça.
C'est quand même... c'est dommage, là, parce que ça a déjà été une très belle maison.
Oui.
En briques. On voit sur le toit, là, il y a au moins 4 lucarnes. Donc, de la lumière qui rentrait là, il y avait probablement une pièce en haut, tout ça. Toujours dommage.
Je serais vaguement intrigué de rentrer là-dedans, pour être franc, mais c'est très, très barricadé avec des clôtures tout le long de la maison, là, mais très, très proche, pour éviter le monde à rentrer. Là, fait que c'est pas...
Non, puis avoir l'état du toit, je m'aventurerais pas à l'intérieur.
Non.
Parce que ça veut dire qu'il y a eu de l'eau d'infiltrer, les planchers sont peut-être très fragiles, très pourris. Tu veux pas aller là.
Mais clairement, la qualité de l'air...
Non, oui, ça aussi. Ouais. Je voudrais pas aller dedans, mais prendre peut-être des photos, tu sais, comme plus proche de l'intérieur, mais bon, non. Non.
T'as réussi deux beaux clichés. Donc,
Ben, merci. Non, je suis assez content, franchement.
Good. Puis Pierre-Luc, toi, t'as fait quoi de côté photo?
Moi, là, on est sorti faire une, on va dire, une balade de groupe à 8 personnes.
À 2 mètres de distance, ça va.
Oui, on était même plus qu'à 2 mètres, là, mais on s'est beaucoup promené. Puis on a fait une partie du centre-ville, puis ensuite de ça, on s'était donné rendez-vous au métro Lionel-Groulx. On a marché jusqu'au marché Atwater. Puis on a dû marcher Atwater. On a marché, là, c'est sûr que le nom, je ne me souviendrai pas, mais vous allez savoir de sonner de quoi je parle. Là. Quand on regarde vers le Farine Five Rose, il y a une statue qui est installée à Montréal depuis, je ne sais pas, là, 3 ans peut-être. Là. Ouais, très, très grande statue qui est, on dirait, qui est un peu découpée dans de la broderie.
Oui. C'est un petit nom de 5-6 lettres. Là. Je l'oublie toujours, le nom de cette statue-là.
Je ne sais pas en tout comment ça s'appelle, mais je sais ce que tu veux dire, par exemple. Oui.
Pour nos auditeurs, on va trouver le nom.
Oui.
Mais on a marché de Lionel Gros, marché à Atwater, on a marché le long du canal jusqu'à là-bas, j'ai fait de la photo du centre-ville, pour ça j'ai marché jusqu'à René Lévesque, puis là je sais pas c'est quoi la rue, là, mais ça doit être, c'est dans le coin de Peel, et René Lévesque, une belle journée, 17 km de marche.
Wow.
Puis je suis tellement content de l'avoir fait parce que j'ai plusieurs super belles photos. Qui sont sortis de cette balade-là. Puis je peux pas vous dire à quel point ça a fait du bien aussi au moral, là, à santé mentale.
Je comprends
de sortir.
Très bien.
C'est pour quelqu'un qui mange de la photo, d'être avec d'autres gens en train de faire de la photo, c'est pas mal le meilleur remède qu'on peut pas espérer pour... je sais pas, là, se recrinquer, dire, puis faire le plein d'énergie, là, c'était fantastique. Ça fait tellement de bien.
Super.
Ouais.
Moi, c'est rare, j'ai pas fait de photo de la semaine. Non, c'est pas vrai, j'ai pris une photo d'une bière que j'ai dégustée.
Moi, j'allais dire scandale, là, franchement. Stéphane, j'étais déçu, là.
Ça arrive.
Toi qui as d'habitude 24 minutes à faire sur des photos, là, puis pas une de la semaine.
C'est
là,
vrai,
non,
hein? Non, mais là, vous allez voir, plus tard dans l'émission, on a une longue entrevue, fait que je voulais pas empiéter sur le temps de cette entrevue-là avec François Mellet.
C'était prévu d'avance, ça, c'est quelque chose. C'est...
Non, c'était pas prévu d'avance, mais bon, ça tombe bien, disons. Mais je me suis j'ai travaillé très fort depuis que j'ai lancé le Patreon et tout ça, j'ai ouvert j'ai lancé aussi les travaux sur le site d'Objectif Numérique, donc les travaux vont commencer à la fin de cette semaine, début de semaine prochaine officiellement, et puis ça va être une refonte complète, mais on va garder un petit peu le même look là, avec il va y avoir le plus récent épisode en vedette, si on veut, en vedette. Puis ensuite, il va y avoir les deux précédents, puis après ça, on va avoir des nouvelles, etc. Puis j'y veux un petit peu l'aspect que ça va avoir l'air. C'est un peu comme un magazine, disons, là, mais ça va être un petit peu mieux, un petit peu plus au goût du jour.
Plus moderne.
Oui, c'est ça. Et puis, j'ai monté le serveur Discord pour les membres Patreon, justement. On a des gens qui ont commencé à se joindre. Je voulais expliquer un petit peu c'est quoi Discord, parce que il semble y avoir un petit peu de méconnaissance de cette plateforme-là. Hein. Mais moi, ce que j'aime là, de Discord, c'est que, vous savez, depuis des années, là, on se plaint que on va sur Facebook, on va sur Instagram, on voit pas les publications de tout le monde sur nos fils, il manque des messages. Surtout, tu sais, quand tu n'interagis pas souvent avec une personne, tu verras pas, ou avec une page, tu verras pas nécessairement les publications passer. Sur Twitter, moi, c'est ce que j'aimais depuis le début, c'est que tu vois toujours tout passer dans un ordre chronologique, mais le problème, c'est que si tu suis beaucoup de monde ou beaucoup de comptes, tu vois pas tout passer parce qu'il y en a trop à suivre. Fait que là, l'option de te faire des listes sur Twitter, mais là, ça te prend plusieurs clics pour te rendre au sujet que tu veux, etc. Donc, c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux de configurer tout ça. Puis avec la longueur des messages limités, ben des fois, ça limite les échanges entre les personnes, tu sais. Puis Discord, ben c'est un logiciel, c'est une application, c'est accessible sur le web aussi. Puis on peut suivre des chaînes ou des salons de son choix. Fait que même si tu t'abonnes à mettons comme nous, Objectif Numérique, ben on va avoir on a une chaîne où on a des questions que les auditeurs peuvent nous poser ou que nous, on peut poser aux auditeurs pour faire voter. On va pas avoir une chaîne que c'est les suggestions de la semaine que les gens veulent nous envoyer. On peut avoir une chaîne générale où on parle de photos et vidéos. Puis une autre chaîne où on parle d'autres sujets. Si jamais il y a des gens qui veulent discuter d'autres sujets que la photo ou la vidéo, on a un salon pour ça aussi. Puis ce qui est possible, c'est d'avoir des notifications seulement pour certains salons, donc certains sujets, si on veut. Contrairement à Twitter, ou quoi que Twitter, on peut dire, si on me mentionne ou si on me répond à un truc, je peux avoir juste ces notifications-là, ça, c'est un peu la même chose. Sur Discord, on peut dire, juste si on mentionne mon nom, sinon je ne veux pas avoir les notifications. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devient intrusif. Il y a moyen de bloquer et de configurer comme on veut. Puis, on peut même mettre le serveur au complet en sourdine si on veut, puis y aller une fois de temps en temps. Puis, c'est merveilleux pour ça. Puis Discord, ben, c'est gratuit à la base. Puis comme je disais, ben, tu as une application Android, iOS. C'est sur PC, Mac, Linux, sur le web. Donc, il y a moyen de se joindre facilement, simplement. Puis, je vous reparlerai un tout petit peu plus tard du Patreon. Là. Je ne veux pas trop m'étendre, mais ça débute bien. Je suis content. juste avant de passer aux nouvelles, on a une petite précision. On a un auditeur, Alexandre Vallière-Lagacé, qu'on salue, qui nous a apporté une petite précision qui confirme un peu un soupçon que j'avais. Sur les comptes agrégateurs Instagram, c'est pas le cas de tous, évidemment, mais il y en a beaucoup, apparemment, qui font ça pour avoir des milliers et des dizaines de milliers d'abonnés, pour ensuite les revendre à des entreprises qui vont convertir ces comptes-là en d'autres choses, finalement. Donc, pour partir avec une bonne base d'utilisateurs, puis ça a l'air que ça se vend parfois des milliers de dollars, là, facilement. Donc, c'est une pratique, malheureusement, qui est assez courante, semble-t-il. Au bloc nouvelle, Christian, tu as une... Bon, tiens, oui, on commence par une rumeur. Allons-y.
En fait, c'est une rumeur qui a été faite sur un appel de Fujifilm India qui disait que quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de monde. Je sais que moi, j'ai fait des petits peu de recherches pour voir si c'était possible. Tu sais, dans ces temps de COVID et de beaucoup d'appels conférences et tout ça, d'utiliser comme caméra, d'utiliser son appareil photo, ben, je me suis dit, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais souvent, exemple comme moi avec ma X-T2, ben j'ai trouvé... C'est étonnant, j'ai trouvé quelque chose cet après-midi là, qui pourrait peut-être fonctionner. Je vais le tester plus tard, mais semblerait, tu sais, plus souvent qu'autrement, la chose la plus facile à faire, c'est d'avoir un module de capture du vidéo, etc., que tu fais fonctionner avec un logiciel comme OBS. Ça, lire, c'est assez complexe, c'est un peu de travail.
Mais quand même, au moins, il va y avoir donc une façon de le faire peut-être, éventuellement, parce qu'on peut le faire avec des Sony, Canon, Nikon. Il y a pas mal de marques avec lesquelles on peut faire une webcam. Là. Donc, mais il faut...
Clairement. Puis là, ce que Fujifilm aurait dit, c'est un des présentateurs expliquait que Fuji est en train de développer un petit logiciel qu'on pourrait installer puis qui permettrait d'utiliser votre caméra comme webcam, ce qui serait vraiment super intéressant. Puis ce qui, moi, m'a le plus intrigué, c'est que c'est pas la X-T4 qui parlait, c'est la série X.
C'est ça.
Okay. Ça, j'ai été comme, oh, OK, si c'est vrai, c'est vraiment super intéressant parce que là, ça permettrait d'utiliser n'importe quoi, là, que ce soit une XT, une X100 ou quoi que ce soit. Fait que c'est... Ouais. J'espère que c'est vrai. C'est pas nécessairement quelque chose de super complexe considérant la technologie que tu as. C'est bien relatif, mais en tout cas, ça reste une rumeur pour le moment. On verra, mais c'est clair que je vais garder l'œil là-dessus.
Ben oui. Super intéressant, parce que X100T, X100F, X100V, c'est une 35 mm. Selon moi, l'angle est bon là, pour si tu veux t'en servir comme webcam.
On s'entend en plus que souvent, tu sais, je veux dire, on a des webcams assez médiocres. Là. Ça dépend des laptops, là, mais c'est pas les chars. Là. Ça prend pas grand-chose pour avoir une meilleure image. Là,
on s'en est d'accord.
Oui. Bon, ben super. Moi, de mon côté, je parle d'un nouveau produit de GoPro. Une lampe articulée, la Zeus Mini, pour un prix qui me semblait un peu cher au départ, mais qui finalement semble relativement correct là, pour ce que ça fait. 70$ américains, c'est une pince magnétique qui est aussi résistante à l'eau. C'est une lampe à DEL là, ou LED en anglais. Et puis vous pouvez faire incliner la lampe, la pivoter sur son petit pied. Puis avec la pince, vous pouvez l'accrocher sur à peu près n'importe quoi. Donc, ça tourne à 360 degrés. Il y a 4 niveaux d'intensité, si on veut, jusqu'à 200 lumens. Et puis, il y a un adaptateur à deux doigts. Donc, si vous voulez le tenir avec deux doigts pendant que vous faites autre chose, vous tenez un autre appareil ou votre téléphone ou peu importe, il y a moyen de le faire. C'est avec... il y a même un petit diffuseur dans la boîte. Et puis, c'est complètement pliable, rétractable. Donc, c'est super compact. Donc, c'est quand même un petit produit intéressant pour soit pour les vlogueurs ou pour les gens qui vont faire de la photo ou de la vidéo à l'extérieur, mais qui ont besoin juste d'un peu de lumière pour déboucher les ombres, là. Pas nécessairement pour tout illuminer une scène. Ouais,
mais c'est une super bonne idée pour moi, parce que ça m'est souvent arrivé avec une GoPro de... Tu sais, tu dis, ben, il manque juste, comme tu dis là, juste un peu de lumière pour pouvoir faire quelque chose de bon, parce qu'on s'entend que la qualité de la GoPro descend très rapidement en basse luminosité. Là, c'est pas exceptionnel. Là. Fait que ça, ça peut définitivement t'aider. Ça me surprend pas qu'il ait sorti un produit du genre, franchement.
Mm-hmm. Ben oui. Donc,
c'est parce que, en fait, les gens les devaient se bricoler un autre genre de solution. T'sais, il existe tellement de choix dans les d'autres types de petites lumières d'ailes sur le marché. Mm-hmm. Mais là, d'avoir la monture GoPro, puis le fait que tu peux te l'installer sur le casque ou sur le harnais, un harnais dans le front, quelque chose comme ça. Je sais pas, on va dire quelqu'un qui fait du skateboard le soir, là, ben, je pense que ça peut juste amener le petit surplus de lumière qui ferait que ça peut marcher ou... C'est moins du bricolage là, que d'être obligé de sortir le duct tape ou quelque chose comme ça avec un autre genre de lampe Dell.
Parfait. Ben, à surveiller. J'ai pas vu de... En tout cas, je pense que c'est lancé, mais au Canada, j'ai pas vu de date ou si c'est lancé en même temps. Là. Donc, à suivre. Ça va sûrement arriver en magasin bientôt. Mm-hmm. Christian, toi, de ton côté, tu nous parles d'objectifs.
Oui, Samyang qui arrive avec... en fait, ce ne sont pas deux nouveaux objectifs, mais deux nouvelles versions d'objectifs. Un 14 mm f2.8 qui appelle Mark II et un autre qui est le 28 mm... Non, excuse-moi, le 85 mm f1.4, toujours Mark II.
Et là, Oui, c'est parce qu'il va falloir que je fasse attention à comment je vais titrer l'épisode parce qu'on va m'accuser de faire du clickbait...
En effet. Mais ce qui est intéressant, entre autres, de ces objectifs-là, ben moi, ce que je trouve bien, c'est que c'est des objectifs manuels, comme beaucoup des Samyang, mais dans le cas présent, ils ont rajouté un focus lock dessus. Ce qui peut être vraiment quelque chose de super bien, parce que ça, c'est vrai que ça peut arriver facilement de changer son focus quand tu fais juste accrocher quelque chose. Là, on peut bloquer l'objectif dans un focus qu'on veut, ce que je trouve super génial. Le weather sealing aussi, qui n'est pas négligeable, qui peut être quelque chose de super intéressant pour le genre de personne qui veut faire ça. Ils ont fait aussi la bande pour le focus, un feeling un peu différent, une texture un peu différente de ce qu'on est habitué, qui n'est pas désagréable. Franchement, là, c'est... je sais pas comment on pourrait dire. C'est comme du micro-pattern qu'ils appellent. Je sais pas vraiment qu'on pourrait le faire, mais en tout cas, ça devrait être plus facile à faire.
Peut-être un petit peu plus... caoutchouc, silicone,
exactement, je sais pas. En tout cas, c'est tout le design, les deux appareils, les deux objectifs, c'est des nouveaux designs. Puis, exemple, puis ça, je trouve ça intéressant, il y a quand même neuf, blades, j'ai un blanc de mémoire.
Des lames.
C'est des lames. Voilà, exactement, j'avais juste le blanc de mémoire. Neuf lames, ce qui devrait donner un résultat intéressant, entre autres, sur la 14 mm pour faire de l'astrophotographie. Fait que c'est assez intéressant, franchement. Je serais curieux de voir les deux, là, qu'est-ce que ça donne, mais ça me semble être quelque chose qui est... Il y a un potentiel assez intéressant.
Mm-hmm. Merci. On vous parlait la semaine dernière, ben, en fait, depuis deux semaines, du défi photo. Les objets de tous les jours vus différemment, bien, on vous rappelle que vous avez jusqu'au 5 juin pour participer au défi photo. Tous les détails pour nous faire parvenir votre photo se trouvent sur le site. Mais si vous avez besoin d'inspiration, allez voir le site qu'un auditeur nous a envoyé, Dédé Schutz. C'est auditeur et membre Patreon, dois-je préciser. Il nous a fait parvenir ça ce matin. C'est une série de photos qui s'appelle Daily Totem, réalisée par une photographe, Laura Bonnefous. Avec le Lomo Instant Square. Donc, quand même, oui, l'appareil est peut-être pas un appareil que tout le monde possède, là, mais je veux dire, les photos elles-mêmes, c'est réalisable avec à peu près n'importe quel appareil photo. Là, c'est juste ça donner ce résultat-là. Mais vous irez voir, c'est vraiment juste des petits objets qui sont soit pliés, mis dans des formes différentes, qui forment un objet ou une image différente. Et puis, des petits totems, finalement, c'est super intéressant. Et puis, c'est ça, on va en reparler aussi avec notre invité tout à l'heure en entrevue. Et je parlais du Patreon. Bien, si vous appréciez le contenu, bien, on a besoin de vous, de votre soutien. Grâce à une petite contribution sur notre Patreon, vous pouvez choisir le niveau de soutien selon ce que vous voulez recevoir en retour. Il y a des épisodes exclusifs qui s'en viennent. Il y a l'écoute en direct de nos enregistrements, donc vous pourriez nous entendre nous tromper live en direct. on peut faire une critique.
Non, Stéphane, c'est juste toi qui se trompes. Il n'y a personne ici qui ne se trompe pas par toi.
Alors, vous pourriez m'entendre me tromper. on pourrait faire une critique d'une de vos photos. Vous pourriez recevoir la photo grand format du mois. Je parle d'une photo 24 mégapixels ou plus. Vous pourriez avoir droit à un court photo d'une heure avec moi en privé. Et par vidéo, on s'entend. On n'a pas encore terminé le confinement de toute façon, mais ça permet d'offrir même aux auditeurs français, si quelqu'un veut avoir un court photo, on peut s'arranger malgré la différence d'horaire. Il y a moyen de trouver une plage horaire qui peut convenir à tout le monde. Donc, je vous invite à aller voir. Il y a quand même 7 ou 8 niveaux de soutien. Ça commence à un petit 2$, puis vous donnez ce que vous pouvez. Et vous pouvez le changer d'un mois à l'autre. Ce n'est pas un abonnement où vous dites ben, « pendant un an, je vais donner tel montant ». Vous pouvez dire « un mois, c'est 2$, un mois, c'est 4, 7$, peu importe ». Puis vous allez avoir les récompenses en fonction de ce que vous donnez. Donc voilà, vous avez le petit bouton en haut à droite d'objectifnumérique.com, un petit bouton « faire un don » pour le Patreon. D'ailleurs, pour les premières semaines, ça commence. On a des nouveaux membres. Je vais les nommer les nouveaux patrons, peu importe leur niveau d'appui, là, parce que c'est quand même très apprécié d'avoir des early adopters, hein, des patrons qui se joignent tout de suite à l'aventure et qui nous donnent un soutien. Un merci tout spécial à Laurent Billot. Ben oui, il a trouvé un autre moyen de se faire nommer dans cet épisode-ci, qui a été le tout premier membre Patreon. Donc, je voudrais remercier aussi Marc, Mr. T, je ne sais pas c'est qui Mr. T, là, mais merci, David, Émilie, Véronique et Chantal. Donc, merci à tous ces premiers membres Patreon, c'est vraiment très apprécié. On va passer maintenant à l'entrevue cette semaine avec François Mellet de Panasonic. Il va nous parler du Panasonic S1H et d'une mise à jour du micro-logiciel qui est sortie aujourd'hui. Alors avec nous, on a François Mellet, qui est représentant technique chez Panasonic. Bienvenue à Objectif numérique.
Merci.
Alors François, aujourd'hui, tu nous parles du Panasonic S1H, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais qui est difficile à trouver justement sur le marché. Il est vraiment très en demande, très populaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'appareil en tant que tel, des caractéristiques et tout ça, pour ce qui va sûrement expliquer sa popularité?
Oui, mais c'est le premier plein cadre donc de chez Panasonic dans la section vidéo professionnelle, donc, et qui fait du format 6K, mm-hmm. donc du ratio 6, du format 6K, et qui est aussi un appareil photo, et qui permet surtout de pouvoir filmer du 6K en illimité, qui est doté d'un ventilateur qui va permettre de dissiper la chaleur, qui va permettre que l'appareil photo ne va pas surchauffer. Et donc, on peut donc s'en servir pour faire des longs métrages, je dirais. Mm-hmm. Et c'est aussi une caméra qui était le seul à date du marché qui était approuvé par Netflix comme caméra principale.
Ah oui.
Donc, qui rentre dans la catégorie des caméras professionnelles Broadcast Pro.
OK.
Et pour un prix, bien sûr, défiant toute concurrence dans sa catégorie. Ce qui fait que pour le prix, pour les performances, photo et vidéo, bah évidemment, les gens veulent se l'arracher. Mm-hmm. Pourquoi, après, il est un peu plus difficile d'accès, je dirais. Il y a eu le S1 et le S1R qui sont sortis, donc les premiers plein capteurs de la série Panasonic, qui ont été appréciés, mais qui ont, je dirais, fait une entrée sur le marché assez discrète. Et de là, ben, comme on a vu un petit peu le résultat, je pense que Panasonic a aussi s'est basé sur cette sortie-là, sur ce côté discret, mm-hmm. et ne s'est pas attendu à avoir autant d'engouement sur ce boîtier.
Ah oui.
Qu'il a été pris de court, je dirais, par ses performances.
OK.
Une production peut-être pas assez importante considérant le genre d'appareil?
Ben, c'était un peu, je pense que c'est un petit peu le guess à prendre. Est-ce qu'on produit tout de suite beaucoup Et puis tout le monde se l'arrache et c'est parfait. Ou on produit beaucoup, puis personne ne le veut, puis on en a plein sur les bras. Et puis effectivement, ben, il aurait peut-être fallu produire tout de suite.
Mais sans vouloir dévoiler de trucs, mais est-ce que, comme là, vu qu'il est certifié Netflix, est-ce qu'il y a des séries ou des films dont on est au courant qui ont été annoncés comme étant en train d'être tournés avec le S1H, ou pour le moment c'est encore assez récent? Là, je comprends que ça fait peut-être pas assez longtemps pour qu'il y ait des trucs dévoilés, mais s'il y en a, ou est-ce que toi tu es au courant de
Mais
certains projets?
moi, localement, je connais quelques cinéastes professionnels qui en ont acheté et qui ont déjà fait, qui sont en cours et qui ont déjà fait certaines productions, que ce soit des courts-métrages, des vidéoclips, ou qui travaillent aussi sur des longs-métrages.
OK, parfait.
Donc, même dans l'entourage, c'est ça, je pense, de Pierre-Luc, là, il doit certainement déjà connaître aussi certaines personnes qui l'ont utilisé déjà à titre professionnel. Ouais.
Je pense que c'est encore un peu tôt pour que des longs métrages soient non seulement déjà terminés, mais que le film soit sorti, là. Bon, avec la situation actuelle, ça a peut-être mis sur pause certains projets, certainement, mais peut-être qu'au courant de l'été ou d'ici la fin de l'été, on verra des annonces là, en rapport à ça. Moi, j'ai quand même eu l'occasion de voir quand même plusieurs vidéos sur YouTube. De productions qui ont été tournées en publicité aussi. Donc là, ça sortait un peu du cadre, là. Mais c'est hyper impressionnant ce que j'ai vu à date, là. En basse lumière, performance quand même assez, assez solide. Vraiment. Parce que, François, tu vas être d'accord avec moi, là, on va dire les compétiteurs de ça, là, c'est on change de braquette de prix, puis. De catégories quand même assez drastiques. Je veux dire, la marche est très haute là, entre le S1H puis les autres appareils qui pourraient compétitionner là. Je sais quoi, Canon C300 ou les Red ou t'sais,
Exactement.
on est déjà dans une autre sphère là, complètement là.
Ouais, exactement, on arrive, on accote la qualité, je dirais, de la gamme Varicam, par exemple, donc de chez Panasonic. Donc on est un peu limite entre notre gamme pro broadcast et puis cet appareil photo-là qui arrive sur le marché. Puis effectivement, on va aller chercher du C300 dans les compagnies concurrentes, du Red, du Venus aussi, donc de chez Sony. On rentre dans cette catégorie-là. La différence que, par exemple, quelqu'un de pro, un cinéaste, irait plus chercher une Varicam ou une Venice ou une C300, c'est que ces caméras vidéo-là sont toutes prêtes à l'avance, on a déjà tout intégré, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin comme de les riguer en bon terme. C'est ce qui pourrait ralentir certaines personnes à l'achat, mais son avantage, c'est qu'on peut l'emmener n'importe où. Donc ça, on la met dans un sac à dos, puis on tourne, et puis c'est fait.
On n'est pas obligé, t'es pas obligé d'avoir tout le rig, justement. Tu peux avoir juste qu'est-ce qui te plaît. Tu peux faire un peu de modifications. Tu peux avoir un écran, pas d'écran, dépendant de ce que tu as besoin. C'est ça qui est quand même assez génial. Dans le fond, ça donne beaucoup de flexibilité.
Exactement, exactement. Ce qui l'a ralenti, c'est peut-être probablement justement le fait de ne pas avoir le format RAW intégré comme on pourrait avoir chez Blackmagic, par exemple. Et que la sortie 6K n'était pas non plus disponible en output. Donc, n'était pas disponible sur des moniteurs externes. Donc, vouloir faire un long métrage puis avoir juste un petit écran, ça pouvait, pour certaines personnes qui avaient besoin d'un assistant, c'était un petit peu limité. Au-delà de ça, celui qui tourne tout seul, qui fait un clip avec, il est parfait, là.
Oui, on a vu des time-lapse quand même assez impressionnants, là, on va se le dire. J'en ai vu plusieurs dans les dernières semaines, là. Bon, évidemment, parce que on a une personne qu'on connaît, François et moi, qui travaille avec nous, Thomas Fasso, qui est quand même un assez bon vidéaste, là, on va se le dire, qui a un S1H dernièrement, puis qui s'est quand même donné à fond dans les 2, 3 dernières semaines, puis qui a mis la réussi à mettre la main sur le S1H parce que il a fait des time-lapse quand même à plusieurs endroits à Montréal. c'est des endroits qui sont quand même assez connus, là, sur le pont Jean-Cartier, en regardant vers René Lévesque. Mm. T'es allé au Stade olympique, t'es allé au parc de la Cité du Havre, puis t'es allé sur le belvédère du Mont-Royal, ça c'est même cette semaine. Puis là, bon, on a été chanceux avec la météo, tout ça, là. Oui. On pourra mettre les liens là, dans les notes d'émission, mais les résultats sont franchement impressionnants.
Super, ben oui, j'ai hâte de voir ça. J'allais te demander si tu pouvais mettre un lien ou deux.
Oui, il y a du matériel là, local en plus qui est quand même franchement cool. Là. C'est des trucs tournés à Montréal.
Ah, super.
L'avantage aussi, c'est qu'on peut extraire des images au format 6K. Donc, vous pouvez tourner puis extraire votre photo du film que vous avez fait. Et puis, la qualité d'image est exceptionnelle. Justement, Thomas, qui a fait son test, m'a dit, regarde, j'ai extrait une image au format 6K. C'est parfait. Là.
Ben oui, ben 6K, on tombe dans les 20 quelques mégapixels, là, presque 24, je pense.
Donc, ben, c'est une 24 millions de pixels.
Bon, c'est ça. Donc, c'est ça, je voulais parler un petit peu des caractéristiques. Le capteur effectif est à 24,2 mégapixels. On parle de quoi? Une latitude de 14 stops avec VLOG. Puis oui. C'est ça, au niveau de la sensibilité ISO, ça monte quand même assez haut. J'ai perdu l'info, mais ça monte dans les combien avant?
On peut exploiter encore facilement un bon 51 000 ISO.
Là. Ah oui, c'est impressionnant.
Puis avec pas de bruit, pas de dégradation de l'image. C'est-à-dire que même à 14 stops, on pourrait même pousser jusqu'à 15, limite 16 stops. Donc comme vraiment une caméra pro à 30 ou 40 000 $. Mm-hmm. Et on s'aperçoit que dans les noirs restent encore noirs. Et puis même si on sous-expose, qu'on rattrape, il n'y a pas de dégradation au niveau du grain de peau, par exemple, okay. Qui souvent est le problème majeur du digital. Mm-hmm. Moi, j'ai vu les images sur un écran de cinéma privé, là, je dirais personnel, dans une boîte chez un cinéaste à Montréal. Puis, il m'a montré ces images faites en comparaison avec la caméra, la Venice Pro. Là. Mm-hmm. Il était sur les genoux. Moi, je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas tout ça. Là. Je ne suis pas réalisateur, donc je suis comme, OK, oui, c'est beau. Il fait, non, ce n'est pas beau. Il ne faut pas dire ça. C'est un no-brainer, ça n'a juste pas de bon sens.
Ah oui. Ah, ben,
donc, ça a l'air qu'ils ont vraiment fait fort.
OK. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'épisode, sortait une mise à jour du micro-logiciel. Qu'est-ce que ça apporte, cette mise à jour-là? Est-ce que c'est des correctifs? Est-ce que c'est des améliorations, des nouvelles fonctionnalités? Qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans?
Bon, alors, j'ai une petite correction à faire ou un petit juste sur la mise à jour d'aujourd'hui.
Oui.
Si vous avez été informé ou pas. Elle était attendue pour qu'il y ait le RAW output qui sorte aujourd'hui. Mm-hmm. Et au final, il ne sort pas aujourd'hui.
OK.
Donc, il y a une mise à jour un peu plus ordinaire qui est faite quand même, donc sur la version 2.0. Mm-hmm. Mais le plus attendu, c'était le RAW output.
OK.
Il y a eu un petit délai dû à beaucoup de tests qui ont été faits. Puis Panasonic, quand ils font quelque chose, ils ne veulent pas un rappel. Mm-hmm. C'est bon tout de suite, puis on ne veut pas. Donc, ils ont préféré attendre, réviser la mise à jour, pour être certain que quand ça va sortir, ce soit bien tout de suite.
Oui, c'est ce qu'il faut aussi.
C'est ça, on s'entend qu'avec les réseaux sociaux, si on sort quelque chose qui n'est pas, comme on dit, c'est sur la coche,
ouais.
Une demi-heure après, c'est la moitié de la planète qui va dire des choses pas bonnes, et puis ça va pas être correct.
Exact.
Donc, il y a un délai à ce niveau-là, et on ne sait pas, on n'a pas de date officielle de la sortie.
Oui, oui, oui. OK. Mais donc, c'est des petits ajustements qui ont été faits dans la mise à jour d'aujourd'hui?
Oui, c'est des petits ajustements, effectivement, sur des choses qui avaient été déjà sorties sur les autres caméras. Mm-hmm. On va parler, par exemple, du vlog comment ça s'appelle, dans le style photo, hein, qui a été étendu. On peut donc le réduire jusqu'à moins 1, donc on peut encore aller chercher plus de gamme, même sur un vlog, donc quand même assez intéressant. Mm-hmm. Il y avait eu des petits bugs qui étaient avec en lecture externe, avec le HDMI, qui ont été aussi rectifiés. Donc, c'est des petites choses. Quand on branche un HDMI en externe, pour une lecture, il y avait en Recrun, il y avait des petits dysfonctionnements. Donc, ça, c'était des petits problèmes techniques qui étaient remis en place. Il y a des petites choses comme ça. On peut aussi avoir la fenêtre qui s'élargit. On est en mode manuel focus, puis on a un système manuel focus qui existe qui va élargir notre fenêtre, qui fait comme une loupe, un effet loupe, pour être sûr de ton foyer. Bon, bah, celle-ci maintenant est possible aussi avec en output avec un HDMI.
Ok, c'est bien.
On pouvait le faire en 4:2 10 bits en vidéo, on va pouvoir le faire maintenant. Donc ça c'est parfait aussi. Des petites choses comme ça qu'on pouvait pas faire avant, qui se faisaient vraiment en interne dans la caméra, donc maintenant qui peuvent se faire quand même en externe. Ce qui pour beaucoup de vidéastes ou de photographes semblait comme, ben, pourquoi ça se fait pas tout de suite, ça devrait être logique. Parfois il faut faire quand même des ajustements techniques, ou c'est des choses juste parce que la compagnie pense pas forcément à le mettre dedans. Donc c'est beaucoup de demandes qui sont faites et puis qui sont avec ces mises à jour là.
Ouais.
C'est un peu l'avantage d'avoir des mises à jour régulières au niveau des micro-logiciels. Là, on est plus limité aux fonctionnalités de base du boîtier lorsqu'on l'achète. Il y a plusieurs compétiteurs qui nous ont habitués à des mises à jour assez régulières. Puis même une fois que ça fait un an, deux ans que l'appareil est sorti, les développeurs continuent de mettre du temps et de l'effort pour faire des améliorations. Là.
Mm-hmm.
Mais c'est quand même fort intéressant. J'avais pas entendu parler d'aucun cas au niveau de la sortie vidéo en HDMI qu'il y avait soit un problème de fonctionnement ou une perte de signal ou quelque chose comme ça. Donc, c'était peut-être rare. Là.
Ouais, c'était peut-être isolé.
Puis je comprends la prudence aussi là, au niveau de la sortie en Cisco. Si tu veux le faire, tu veux le faire de la bonne façon. Là. Il y a tellement de blogs et de gens qui écrivent sur les sorties de matériel photo et vidéo, et que là, tout ce monde-là ont du temps en ce moment. Tu veux pas sortir quelque chose qui n'est pas complètement au point, puis t'es obligé de faire marche arrière. Là, puis, OK, non, il faut revenir à l'autre version du micro-logiciel, puis éventuellement, il va y avoir une sortie. Là. Ouais. Je pense pas que ça soit problématique réellement.
Non, mais c'était des petits cas de temps en temps de bending qui apparaissaient dans le 4.2.0.
OK.
Donc, ça a été juste ajusté, c'était minimisé un petit peu. Donc, c'est sûr que c'est pas... Parfois, c'est des problèmes qui sont,
aléatoire là, ou...
Exactement, voilà. Parfois c'est un problème aléatoire, donc ça va vous arriver, puis quand vous faites la démonstration, ça n'arrive pas, vous retournez chez vous, ça revient. Au bout d'un certain temps, on fait bon, bah, essayez de faire le maximum pour éviter que ça arrive. Il y a aussi, on peut aussi en autofocus continu, on peut c'était le mode autofocus manuel plus autofocus simple. Donc même en AFC, on peut encore modifier le mode, les modes autofocus. Avant, il se faisait que en AFS. Là, on peut tout modifier dans le même mode.
Ok.
Il y a des ajustements très 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 poussés. Après, on peut aussi assigner avec les objectifs Leica 70-200 qui est sorti. On peut assigner les boutons qu'on pouvait pas forcément avoir. Donc, assigner des fonctions vidéo sur les boutons.
Ok. Donc, les boutons, c'est des boutons macro.
Les boutons fonctions qui sont sur les objectifs. On peut assigner des fonctions dessus.
OK.
Sur la 70-200, ça n'était pas possible avant. Maintenant, c'est possible.
OK.
Avec la SRH, des petites fonctions qui ont été faites. Parce que souvent, les gens qui utilisent la SRH vont utiliser pas forcément les objectifs natifs de Panasonic.
Mm-hmm.
Ils vont plus utiliser des objectifs cinéma ou des objectifs Canon. Parce que le monde de Canon est très très présent dans la vidéo.
Oui.
Beaucoup de monde sont équipés avec.
Donc, ils utiliseraient un adaptateur EF là, pour utiliser soit des objectifs Canon ou Rokinon d'autres objectifs vidéo comme ça. Là. Puis, bah, évidemment, là, on n'aura peut-être pas la qualité optique que les objectifs Leica, monture L pour Panasonic peuvent offrir. C'est pas le même prix non plus. Là. Quelqu'un qui décide d'utiliser des objectifs Canon, c'est même pas obligé d'être la sérielle, ça peut être presque n'importe quel objectif canon ou justement Rokinon, là, parce que je sais que, entre autres, Thomas, il a des objectifs Rokinon qui l'utilise sur la S1H. Ben, tout le monde quand même sait bien que l'objectif que tu vas utiliser, c'est un peu le maillon faible là, dans ouais. l'équation. Mais moi, ce que j'ai vu comme résultat, c'est quand même vraiment très bien, là, même impressionnant. Donc, je serais très curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner avec, avec des beaux objectifs monture L. Là. J'ai pas vu la 70-200 encore, mais...
C'est sharp, c'est vraiment beau.
Ouais,
c'est,
j'en doute pas, là.
Très, très, très beau. Mais tous les objectifs Leica de la gamme Panasonic, que ce soit pour le plein capteur ou pour les autres séries, ils sont vraiment beaux. C'est ben oui. assez surprenant. Là, il n'y a pas de dominante de couleur, il n'y a rien du tout, c'est vraiment très, très sharp.
Okay.
Donc, ça évite à l'appareil photo ou à la caméra vidéo de travailler un peu plus que la normale.
Mm-hmm.
Parce que la caméra vidéo va processer l'image, mais si ce qui arrive dedans est très pur, elle n'a pas besoin de beaucoup travailler mm-hmm. au final. Donc, elle vous donne le maximum. Mais sinon, beaucoup de monde vont utiliser les objectifs Sigma Cinema.
Ouais, okay.
Oui,
ok. Qui sont très, très bons en monture oui. native aussi. Donc et beaucoup moins dispendieux, pareil. Mais l'avantage de celui qui va utiliser un objectif Panasonic, un Leica natif avec sa caméra vidéo, c'est qu'il va avoir aussi son autofocus qui va être natif, donc très très rapide en même temps. Il peut à la fois s'en servir comme vidéo, puis au moment où il veut faire une photo, mais il passe en mode photo avec, et là, il va obtenir tout de suite ce qu'il a besoin. Une optique Rokinon ou n'importe lequel autre qui est purement mécanique, si vous voulez faire une photo, ben vous êtes en focus manuel par défaut.
Mmh.
Sur un plein capteur, focus manuel, c'est un petit peu plus difficile à être réactif.
Définitivement. Oui. Mmh. Si on fait de la photo, en fait, n'importe quoi, où ça implique du mouvement, là, focus manuel, c'est... ouais. c'est autre chose. Il faut être, faut être rapide, il faut être précis. Puis ben, c'est certain qu'on va faire plus de déclenchements qu'on voudrait parce qu'on n'est pas toujours pile poil sur notre sujet. Là.
Mm-hmm.
Tandis qu'en vidéo, ça pardonne un peu plus. Là.
C'est ça.
Voilà.
Et puis bien sûr, c'est une caméra aussi qui est stabilisée sur 5 axes.
Oui.
La S5. Donc ça vous permet de travailler aussi à main levée, à des vitesses très très basses d'obturation, sans rien avoir comme accessoire supplémentaire.
Ouais, presque tous les vidéos que j'ai pu voir, moi, ça c'était dans des conditions d'éclairage qui étaient quand même assez sombres, là. Si c'était pas carrément le soir à l'extérieur ou à l'intérieur avec peu de lumière. À main levée, je suis certain qu'on va chercher des super bons résultats, étant donné que bon, on a vu là, que la plage des ISO monte quand même très haut. Mais ouais. En plus, là, quelqu'un qui s'installerait sur je ne sais pas c'est quoi le terme qu'on a officialisé en français, mais sur une gimbal.
Oui, un cardan. Ben
là, un cardan, c'est ça. Il n'y a absolument personne dans le milieu qui va savoir de quoi on parle.
Non, je sais, mais une gimbal, je sais.
En informatique.
Oui, en informatique, c'est pareil. Il y a plein de termes que les gens n'utilisent pas. Là, mais tout le monde connaît le terme anglophone. Mais...
oui, c'est ça. Mais ça, moi, j'ai bien hâte de le voir en action parce que je suis convaincu que on peut aller chercher des résultats qui sont phénoménaux. Là.
Mm.
Ouais.
Super. Puis, elle a plein d'autres fonctions. Hein. Ça reste un appareil photo aussi qui reste résistant aux intempéries.
Mm-hmm.
Oui.
Donc, vous n'êtes pas limité par son utilisation. Qui va aussi vous permettre de faire de la photo au ratio 6K également, mais de la photo pure,
mm-hmm.
à des cadences d'image de 30 images secondes ou des 60 images secondes en 4K. Donc vous êtes capable, de tout en étant dans un mode photo, de faire de la vidéo quand même.
Mm. C'est
donc,
super.
On a énormément de... Et le fameux VLOG, souvent dans des caméras vidéo, on va trouver ça dans un profil de vidéo spécial. Mm-hmm. Ce VLOG-là reste un profil de couleur. C'est-à-dire que la personne qui va tourner, qui va filmer en vlog, quand elle va vouloir faire une photo, elle peut faire des photos au profil vlog. Donc quand elle va faire son montage, qu'elle va vouloir intégrer des photos dans son montage vidéo, au moment de sa colo, ces photos sont déjà au profil vlog, varicamlog, avec sa vidéo. Donc quand elle va vouloir intégrer son propre fil d'avance, tout est déjà prêt.
Mmh.
Tout sera pareil. Elle n'aura pas besoin de refaire un RAW, pas traiter son RAW à l'avance.
Ouais, ouais, puis essayer de reproduire
exactement.
La colo qu'on avait en filmant, etc., qui là, ça serait, c'est loin d'être scientifique, là, ça serait compliqué.
Ça serait une fonction intéressante. Ben oui, tu vois, moi je connaissais pas vraiment. J'avais vu les S1, S1L un peu à leur sortie, là, mais j'ai pas vraiment pu en essayer. Donc j'étais moins familier un petit peu. J'avais essayé d'autres Panasonic. Christian, t'avais pu essayer un petit peu le GH5, ça se peut-tu, ou pas longtemps, hein?
Oui, exact. On l'a eu, je pense, une semaine ou un affaire de même.
Ouais, là, deux, trois jours, je pense. Deux, trois jours.
Ah, c'était ça pas suffisant. Vraiment pas long.
Oui, oui. Mais bon, quand même, ça reste que c'est des appareils qui ont une excellente réputation là, dans le milieu.
Oui, de mémoire, j'avais beaucoup apprécié le peu que j'avais pu l'utiliser. Là. Mm-hmm.
Mais c'est ça, le GH5 se vend encore très, très bien dans sa catégorie.
Mm-hmm.
Il a eu vraiment une très, très bonne presse tout au long de ces années.
Mm-hmm.
Puis je pense que la SAH part dans cette lignée-là.
Mm-hmm.
C'est un petit peu le successeur plein capteur que les gens attendaient probablement dans la série. Malgré sa taille, mais qui est faite, je pense, pour ça. Je ne verrais pas mettre une optique cinéma sur un petit appareil photo.
Mm-hmm.
Le débalancement, la prise en main, tout ça ferait que ça ne pourrait probablement pas très, très bien marcher. Ce serait moins intéressant.
Mm-hmm.
Rien de négatif, selon moi, à dire sur la taille du boîtier en tant que tel. C'est un boîtier costaud comme à peu près n'importe quel appareil plein format. Que ce soit sans miroir ou traditionnel DSLR, en fait, il est même plus petit un petit peu que certains. Mais c'est costaud, mais il y a une bonne prise en main, puis la poignée est quand même profonde. Puis selon les objectifs qu'on va mettre là-dessus, on veut être capable de tenir ça solidement et fermement. Là. Tu ne veux pas tenir ça du bout des doigts là, si tu es en train de tourner. Là. Clairement, tu as moins de stabilité. Puis,
ben, c'est ça.
Non, je puis c'est pas il n'est pas énorme non plus. Là. Je vois pas comment ça pourrait être un facteur au niveau du transport ou quelque chose comme ça. Là. Je pense pas que ça soit un facteur déterminant dans le choix de l'appareil. Là.
Non, ça, les gens...
J'ai fait du test, j'ai pris dans mon sac, puis j'avais une 2405 dessus, puis je me suis baladé avec, puis j'étais pas... Le fait qu'il soit volumineux, qu'il soit très bien balancé, ça aide justement à faire disparaître un petit peu la taille de l'appareil photo qui est, au premier abord, on est tellement habitué maintenant à avoir des choses très petites entre les mains qui fait comme presque peur parce que par défaut, on se dit qu'un sans-miroir doit être petit. Alors, est-ce qu'une voiture électrique doit être petite aussi? On ne sait pas. fait que ça fait peur, mais une fois qu'on l'a en main puis qu'on garde assez longtemps, on s'aperçoit que comme il est très très bien balancé, il n'est pas lourd. Alors on regarde ses specs, ah oui, mais il fait tant de kilos, avec l'objectif ça fait tant de kilos, c'est aussi lourd qu'un DSLR standard,
ouais, ordinaire, c'est ça.
Avec 10 000 fois plus de fonctions. Donc c'est ça qu'il faut enlever la peur, il y a beaucoup de gens qui sont réticents avec ça, il faut enlever ce côté-là.
Ouais, ouais.
Puis bon, une fois qu'on regarde dedans, on ne veut plus s'en passer.
Ouais, non.
En toute objectivité.
Ouais, c'est
exactement.
Ça.
Eh bien, merci beaucoup, François. Ça fut un plaisir, puis très instructif aussi. Puis dès que tu as une autre mise à jour ou un autre, en fait, un autre produit même dont tu veux venir parler, tu es le bienvenu.
Ah, ben parfait. Merci.
Merci, François. C'est vraiment gentil.
Merci bien.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Puis je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a un endroit, toi, j'imagine tu fais de la photo ou de la vidéo, est-ce que tu voudrais qu'on mette de l'avant un de tes comptes ou quelque chose, si tu veux, ou...
Moi, je fais de la photo à titre personnel, ouais, aussi. Ouais. Donc, je fais de la photographie plus noir et blanc, carré, la photographie de rue.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai quelques petits... En ce moment, j'ai quelques petits projets de confinement, où je fais de la photo culinaire artistique.
Ah oui, cool.
Donc en fait, je prends en photo tous mes fins de plats.
Ok. Tes fins de plats.
Ouais, c'est-à-dire que par exemple, j'essuie mon assiette, ben, je vais prendre en photo comment j'essuie mon assiette.
Ok.
Et puis ça donne des effets 3, des effets 2D, deux dimensions. Ça fait un peu tableau, ça fait un peu peinture, ce qui est assez sympa. Justement, j'en ai mis quelques-unes sur un de mes comptes. Puis il y a des morceaux de brocoli, des affaires avec un peu de sauce. Puis ça fait assez.
Ah oui, ok. Ben,
Ça,
je suis
c'est assez
curieux.
original. Puis ben, au moins, regarde, on est en confinement, on peut pas sortir. Il faut trouver des idées de faire de la photo.
Ben, exactement.
Puis surtout, essayer d'être créatif. Puis ben, là, justement, ben, je me suis dit, tiens, on va partir là-dessus. Puis j'ai pas eu grand monde qui prenait vraiment tant que ça leurs assiettes à la fin du repas en photo.
C'est vrai.
Avant de partir à la laveuse.
Vas-y,
En fait,
Pierre-Luc.
j'allais dire, Stéphane, que en fait, c'est drôle parce que je trouve que ce que François a fait comme exercice, c'est assez en lien avec le défi qu'on a donné aux auditeurs, c'est-à-dire d'essayer de faire de la photo en utilisant des objets,
De tous
c'est
les
soit de tous
jours.
les jours, là, des trucs du quotidien, mais en changeant un peu la nature de l'objet, ou en tout cas en les prenant sous un angle. T'sais, différent, là. Puis ça s'inscrit pas mal dans cette lignée-là.
Ben oui.
Stéphane, c'est sûr, on va ajouter le lien là, pour le compte Instagram de François parce que t'sais, j'en regarde quelques-uns, là, puis clairement, là,
c'est ce que
il
j'allais
a bien
dire.
compris le concept, mais il ne savait pas
C'est ça. Fait, si tu veux
qu'on avait
envoyer
un.
une photo pour participer au défi, tu es le bienvenu. Ça semble cadrer exactement dans cette optique-là, dans cet angle-là. Puis c'est pour le plaisir, là. C'est vraiment justement pour essayer de mettre un peu de créativité dans ce quotidien-là où on est confiné, puis on ne peut pas tant sortir pour faire de la photo. Évidemment, le confinement a été allégé beaucoup, là, récemment, mais quand même. On peut pas aller t'sais, faire la fête avec tout le monde et tout ça. Donc, pour ceux qui veulent justement faire de la photo, mais qui veulent pas prendre le risque t'sais, d'approcher des gens puis d'enfreindre des restrictions en place, ben c'est pour ça, exactement pour ça qu'on a lancé ça. Donc, si tu en as envie, tu nous fais parvenir une petite photo, puis on l'ajoute à la liste de celles qu'on aura, puis on va publier ça dans 2 semaines à peu près. On a jusqu'au 5 juin. Après, la semaine suivante, on va les publier là, puis on va peut-être déterminer un ou quelques gagnants juste pour le plaisir de dire ben, celle-ci c'était rigolo, celle-ci c'était vraiment original, celle-ci c'était tout simplement pour le plaisir.
J'envoie ça.
Oui, il faut envoyer ça à podcast à objectifnumérique.com. Puis nous, moi, je vais me faire un album sur Flickr. On a un compte Flickr pour Objectif numérique. Puis on va mettre un petit album, les photos, tu sais, pas trop haute résolution non plus, là, mais dans genre, tu sais, moins de peut-être 1280 pixels ou même plus petit un peu, là. Donc,
Donc, les comptes, en fait, il y en a deux. Il y a un compte qui s'appelle Lumix Québec. Nous avons pour la communauté des photographes ou des vidéastes qui utilisent du Panasonic au Québec et ailleurs, mais bon, c'est Lumix Québec. Puis pour ceux qui sont intéressés ou qui veulent par défaut voir un peu ce qui pourrait se faire, il faut savoir que 99% de mes photos ne sont pas retouchées. Ils sont juste cadrés, il y a juste un petit frame, un petit cadrage blanc que j'ajoute, mais elles sont natives de l'appareil photo, quasiment toutes. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est parce que maintenant, souvent sur les réseaux, ben, on met des photos, puis là, ça a été, comme je dis, passé à la moulinette. Fait qu'on ne sait pas qui est quoi et quoi est qui. Moi, je suis assez puriste là-dessus. Puis je trouve que ça met, quand on a un appareil photo, c'est qui va coûter 5-6 000 dollars et en montant, ou même 3 000 piastres. Puis qu'on passe une des meilleures sur Photoshop pour en tirer une photo qui daterait avec un vieux filtre de cyanotype, etc. Je trouve que ça fait un peu mal au cœur. Ça met pas vraiment en valeur, tu sais, ce qu'on a entre les mains. Autant s'acheter une vieille caméra old school, puis on aurait le même résultat. Donc autant, moi, je préfère dire, voilà, ça, c'est natif de l'appareil photo. OK, donc ça, c'est telle compagnie qui fait ça, ou c'est tel appareil photo, tel objectif. Donc on est capable de faire ça comme ça. Donc ça, c'est mon point de vue à moi. Puis sur mon Instagram, City Life Square Photo, les noirs et blancs sont des noirs et blancs natifs de l'appareil photo. En fait, je suis un peu fainéant.
Ah. Non, mais c'est bien
Mais
aussi.
tu utilises des modes, pardon, des modes dans l'appareil?
J'utilise tous les modes de l'appareil photo. Même en noir et blanc, j'ai mis à peu près 6 mois pour configurer mon appareil photo. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en utilisant les fonctions de vos appareils photo, vous finissez par comprendre à quoi servent toutes les fonctions qui sont dedans. Au lieu de se dire, ah ben, je sais pas, puis on verra sur Photoshop ou sur d'autres logiciels de retouche d'image, puis on va passer une demi-heure dessus ou trois quarts d'heure pour une image que finalement on aurait pu faire live en l'espace de 1/250 de seconde.
Non, je suis bien d'accord. Ben, moi aussi, je fais du noir et blanc beaucoup, mais je n'ai pas vraiment joué avec les réglages dans mon appareil. Donc, mais c'est quelque chose que je vais regarder si je peux modifier des petits trucs parce que ça m'arrive de. Juste ajuster un peu le contraste ou des trucs comme ça, là, une fois que je sors mes photos. Mais moi, je fais ça dans Lightroom. Puis si je passe plus de 30 secondes ou une minute sur une photo, c'est qu'il y a un problème. Je regarde la suivante, voir si elle est meilleure ou quoi, parce que j'essaie de justement pas trop passer de temps après. Sinon, c'est que les réglages au départ n'ont pas été faits correctement. Là.
Mais bon. Mais ça, mais bon, c'est des photos assez simples. C'est sûr que si je prends l'exemple des très belles photos que Pierre-Luc fait, je me doute que bon, il y a à un moment donné un peu de, on est obligé de passer un petit peu de moulinette dessus quand même.
Ouais,
peut-être pas beaucoup, mais un petit peu peut-être d'ajustement un petit peu à droite à gauche là, parce que c'est pas c'est moins du lifestyle comme moi je fais. Si c'est un peu flou, c'est pas grave puisque c'est de la photo de rue que je fais. Donc j'ai une marge d'erreur en photographie de rue qui est un peu plus large, je dirais, que l'architecture ou des photos comme ça.
Parfait.
Donc c'est ça. Mais on peut faire aussi des marges photos. On va organiser ça.
Oui, ça pourrait être intéressant, oui.
Ce seront probablement des marges masquées, parce que ce sera plus simple pour tout le monde.
Oui.
Mais chacun aura son masque, mais au moins on sera safe avec ça et on pourra faire des petites choses.
Cool, ben moi je suis partant. Nous, on fait presque toujours, on en a fait au moins 3 ou 4 là, dans les dernières années, des marches photos pour le podcast. On était un tout petit groupe, je pense le plus gros groupe, on était une douzaine. Puis on fait entre 7, 8 et 12 personnes, mais s'il y en a qui s'organisent aussi, on peut en parler, on peut y aller. ça va nous faire plaisir, on aime beaucoup ça.
Ah ben super.
Cool. On va très certainement rester en contact.
Oui? Ah, super.
Ben oui.
Merci, François.
Merci, François.
À bientôt.
Passe une bonne soirée, mon cher. Bye.
À vous aussi, passez une bonne soirée.
Bye. Bye. Et on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique sur toutes les plateformes de balado-diffusion, que ce soit Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. On est diffusé tous les samedis midi sur choc.ca et on est aussi sur Rivercast Media. On va passer aux suggestions de la semaine. Tiens, Christian, on va commencer avec toi. Tu as une photo du Joker.
Oui, oui. Une photo de Joker qui a été prise avec le Joker, le célèbre Joker de Batman.
Ouais.
A été pris, c'est une figurine, mais ça a été pris avec des items trouvés dans une maison. Mais honnêtement, en voyant la photo, je me suis vraiment demandé quel item il peut avoir dans sa maison. Puis là, il l'explique, on voit toutes les différentes choses qu'il a prises, puis c'est vraiment ingénieux. Franchement, là, c'est assez impressionnant, c'est bluffant. J'aurais jamais été capable de savoir quel item était quoi, puis après que tu l'as vu, on dirait que tu n'es plus capable de pas le voir, là. C'est étrange comme sensation. Fait que c'est sûr qu'il faut voir la photo avant de l'avoir déconstruite, mais c'est quand même super. On voit qu'il y en a qui ont beaucoup d'ingéniosité, disons.
Oui, je vois les objets en dessous. Là. C'est... Ben écoutez, c'est pas à ce niveau-là qu'on vous demande de faire des photos pour le défi photo, mais ben, c'est si un très bel exemple. Les objets de tous les jours vus différemment, c'est comme wow, là, médaille d'or, mais on demande pas ça. Là.
Non, c'est là, clair.
En fait, c'est fascinant à plusieurs niveaux parce que, bon, oui, il y a le choix des objets là, qui... clairement, il a détourné leur utilisation première, puis leur donné une nouvelle fonction, une nouvelle vocation pour les besoins de la cause. Mais là, il y a une question de temps aussi. Là.
Oui.
La maquette qu'il a montée, là, ça ne s'est pas fait en 20 minutes. donc,
non, je ne penserais pas moi non plus.
Tu sais, quand tu parles d'avoir une vision, puis que tu focuses sur un résultat, puis là, tu dis « OK, mais ça, c'est les étapes que j'ai besoin... De franchir pour pouvoir y arriver. Là. Il y a un peu de détermination en plus d'ingéniosité puis de débrouillardise dans son projet parce que C'est réellement impressionnant.
Puis on s'entend qu'il y a quand même un peu de trucage. Il y a des choses, il a enlevé, il y a une espèce de pôle qui est utilisé pour tenir le Joker qui a été enlevé en post-production, des choses comme ça. Des cartes ont été rachetées, mais malgré ça, tu te dis, la photo est quand même relativement proche de la réalité. Il a joué avec les couleurs, les choses, ça, c'est quand même super impressionnant pareil. Oui, oui.
Puis j'imagine que, tu sais, une fois que tu l'as fait ta photo, tu défais tout ça, là.
Oui, ça peut faire mal au cœur.
C'est pas comme un gros Lego. Ah, j'ai fait, tu sais, j'ai monté un énorme vaisseau de Star Wars en Lego, puis tu veux le garder assemblé, là.
Ben, t'es content qu'il s'est gardé.
Tu fais ton post-traitement, tu la publies, puis là, bon, mais on peut défaire tout ça.
Ouais,
on va monter l'air climatisé, là, parce que c'est ce qu'il faut. Là,
qui est maintenant.
Vous allez comprendre en voyant la photo.
Qui est maintenant peinturé, probablement, ou je sais pas trop, là, mais.
Ouais.
Enfin. Ben, je faisais une blague tantôt, mais l'ami Laurent Billot a aussi suggéré un truc, ben, peut-être indirectement, mais il l'a partagé sur Facebook, et puis moi, j'ai récupéré ça par la bande. C'est, on parlait de Lego et tout ça, ben, c'est justement quelqu'un qui fait de l'art positif avec des Lego. Donc, Sam Sophie, c'est un photographe plasticien qui a une collection de Lego plutôt phénoménale. Et puis, lui, son plaisir, c'est justement de faire des petites mises en scène et puis il fait des séries de photographies avec des personnages. Donc, on voit sur une des photos Gandalf qui sort d'une petite maison de Hobbit, mais il y a un astronaute dans une montgolfière, mais le ballon, c'est la lune un peu en background. Donc, c'est des trucs qui font rêver, qui font sourire. C'est vraiment intéressant comme petit.
J'ai un petit faible pour la dernière photo, justement, dans ce très Magritte, là. C'est très bien pensé.
Oui, absolument. Reproduction de la toile de Magritte avec le personnage au chapeau melon de dos devant une pomme qui est plus loin, un peu flou. C'est vraiment bien. Ouais. T'as une autre suggestion? Bon, on parle encore de la compagnie GoPro.
Oui, j'ai une petite GoPro. Ben, on parle souvent que la GoPro est indestructible et que, tu sais, bon, on peut la laisser tomber de des hauteurs impressionnantes puis il arrive à rien. Ben, moi, je vais vous mettre au défi de trouver quelque chose de mieux que celle-là. C'est une GoPro qui est tombée dans la lave et qui a survécu.
Ah, ben, rien de moins, hein?
Rien de moins. On s'entend que bon, le boîtier est pas en très bon état. Disons qu'il a vu des meilleurs jours. Je suis pas super convaincu qu'il va la réutiliser par après, mais il a quand même réussi à ressortir le vidéo de cette GoPro, puis on peut voir la caméra tomber dans l'ave et se faire engulfer dans le noir pendant un petit bout, jusqu'à temps qu'il réussisse à la ressortir. C'est quand même assez spécial à voir, disons. Mm-hmm. Je trouve ça qui est autre comme petit. Disons que GoPro a pas mal ressorti en disant regardez, vous voyez, regardez ce qu'elle est capable de faire, notre caméra, on est solide.
Oui, un bon coup de publicité.
C'est doublement impressionnant. Bon, la caméra, clairement, là, effectivement, elle a connu des jours meilleurs, là, est passablement fondue et abîmée. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a réussi à aller extraire la.
Oui.
La micro SD, parce que là, c'est plus juste ouvre la petite porte puis récupère ta carte. Là, il a dû, je sais pas, creuser à travers le plastique.
J'ai l'impression qu'il a sacrifié pas mal la GoPro et ce qui en restait pour pouvoir aller chercher la carte SD.
Mais c'est clairement bien isolé, là, c'est-à-dire qu'elle est enfouie dans la GoPro de façon c'est sécuritaire. Moi, ça me rassure en tout cas.
Oui, pour quand tu vas aller visiter un volcan, c'est ça?
Oui.
Oui, ben là, si un jour on a le droit de prendre l'avion,
oui, peut-être.
Il y en a quand même sur ma liste. Là. Mm-hmm. Mais bon.
Un jour.
C'est ça.
Ça va revenir.
Super. Bien, ça fait un gros épisode. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Christian.
Merci, Stéphane.
Merci, Pierre-Luc.
Merci à toi, mon cher.
Et bon, de un, je voudrais remercier les nouveaux membres Patreon, merci de votre soutien. Je voudrais remercier aussi Maxime Soriol, qui continue à contribuer à l'arrière-scène au podcast et qui nous a trouvé un invité pour la semaine prochaine. Donc, mais je garde le suspense. C'est un photographe. Et puis, on va s'entretenir avec lui la semaine prochaine au niveau d'un certain prix qu'il aurait remporté. Donc, voilà. On vous invite à participer au défi photo. Vous avez encore environ une semaine au moment de publier cet épisode. Il va vous rester à peu près une semaine pour envoyer la photo. C'est jusqu'au 5 juin, 23h59. On n'est pas à la minute près, mais essayez de l'envoyer avant minuit le 5 juin. En fait, minuit le 6. Puis voilà, on vous invite à aller voir tout ce qui est offert sur le Patreon. Vous allez voir que même à partir de 2$, il y a des épisodes en meilleure qualité, 320 kilobits, l'accès à Discord, notre nouvelle communauté. Et puis, c'est ça. On a d'ailleurs, la petite suggestion de Dédé Schutz, Daily Totem, a été envoyée sur le serveur Discord aujourd'hui. Donc, ça prend vie, ça prend forme. On s'active de ce côté-là. Donc, voilà. Bon défi photo à tout le monde. À vos déclencheurs.